France Culture.
Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
La guerre à la drogue, du médicament au poison. Imaginez une expérience radiophonique, quelque chose d'étrange, une émission avec des invités sous substance. La chose est-elle envisageable? Alors, nous ne sommes pas dupes dans la longue histoire de la radio. Cela a dû se produire quelques fois. Mais bon, écoutez tout de même ce document exceptionnel. Devant le micro, une dame qui a consommé des drogues ou des champignons hallucinogènes.
C'est marrant, je regarde le micro de gauche et le micro est très... Il est très présent, mais à ce moment-là, il a disparu. C'est marrant. C'est comme s'il était en vert. C'est complètement idiot, mon micro. Il a un petit peu ironique, mon micro. Votre micro, il m'a dit non. Il m'a fait signe de la tête que c'était non. Il est très drôle. Oh, c'est merveilleux, il faudra me redonner de l'autre machin.
Emmanuel Retailleau, bonjour.
Bonjour.
Comment est votre micro?
A priori, ça va. Il est stable.
Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à Sciences Po Lyon et vous travaillez sur ces questions de drogue. Hein. Les drogues, une passion maudite. Elle est vraiment maudite, hein, ces drogues. On entend ici du rire pour commencer une émission sur les drogues. On rappelle hein, tout de suite les ravages qu'ont pu faire les drogues au fil de leur longue histoire. Avec nous aujourd'hui, Vincent Verrouste, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien des sciences, chercheur postdoctoral. Ce qu'on vient d'entendre là, c'est une expérience que vous avez sans doute croisée dans vos recherches parce qu'elle est menée par un homme qui... a conduit tant d'expériences et de réflexions sur les drogues.
Absolument. Nous venons d'écouter un extrait. Donc c'était un extrait, hein, ça ne se passait pas dans le studio.
Non, voilà, vous faites bien de le préciser. Merci.
Même si votre micro me paraît très sympathique. C'est l'extrait d'un film qui s'appelle Les champignons hallucinogènes du Mexique, qui a été réalisé en 1964. Mais c'est une expérience qui a été filmée en 1959 avec des volontaires sains qui ont pris des champignons hallucinogènes dans le cadre d'un documentaire scientifique.
Mais porté par Roger M, qui est-il?
Absolument, donc le film a été commandé et réalisé par Pierre Thévenard, un médecin de l'Institut Pasteur, mais commandé et dirigé scientifiquement par Roger M, un professeur du Muséum National d'Histoire Naturelle, un mycologue qui a aussi dirigé le Muséum National d'Histoire Naturelle.
Avec un discours médical comme une évidence, hein, Emmanuel Retailleau, toujours très compliqué de définir une drogue. Et dans la série d'émissions que le cours de l'histoire a consacré aux drogues, qu'on retrouve hein, sur francecultures.fr et l'appli Radio France, à chaque fois c'est la même discussion, le médicament et le poison.
Oui, alors le terme de drogue, ça relève du langage usuel en fait, et comme vous le savez, ça désignait à l'origine de manière générique les médicaments, et ce n'est finalement qu'à la fin du 19e siècle qu'apparaît un terme plus spécifique et censément plus scientifique, qui est le terme de stupéfiant. Qui va donc former une catégorie juridique à partir de 1916, mais qui reste lui-même sujet à caution, parce que qu'est-ce qui relève des stupéfiants, qu'est-ce qui relève des drogues au sens plus large, les psychologues et les psychiatres vont forger ensuite le terme de modificateur de conscience, qui est beaucoup plus large et qui peut englober bien sûr l'alcool. Donc en fait, cette terminologie, elle est relativement flottante. Et les catégories, les produits qu'on peut caractériser comme drogue sont eux-mêmes à géométrie variable.
Hein. Oui, je voulais aussi vous remercier pour le café qu'on m'a servi, et tout en précisant que le café est un psychotrope. Si on le boit, c'est bien parce qu'il a un effet sur le cerveau. Et si on en boit très souvent, on a un symptôme de manque qui est décrit dans la littérature scientifique. Donc, vous nous avez donné de la drogue ce matin.
Oui, bah voyez, je vous dis, dealer de savoir, dealer de café, avec cette réflexion toujours sur la destination, en fait, du produit, parce que tous ces produits que nous évoquons, on va les retrouver dans la pharmacopée. Mais pourquoi les utiliser? Usage médical ou usage récréatif? Et puis après, il y a toute la question des doses. C'est un peu cette réflexion qu'on doit avoir aussi.
Oui, avant même les usages médicaux ou récréatifs, il y a eu les usages religieux, en fait. C'est-à-dire des produits utilisés pour entrer en contact avec le divin, avec le sacré, dont on a des traces extrêmement anciennes. Et ce qui fait que ces produits, ils ont été pendant très longtemps ritualisés et contrôlés. Et puis, usage pharmaceutique, hein, là encore, depuis la nuit des temps, pourrait-on dire. Les usages récréatifs à proprement parler ne sont observables dans le monde occidental que tardivement, en fait, à partir de la fin du XVIIIe et surtout du XIXe siècle.
C'est au moment, d'ailleurs, où se développe cette idée de loisir ou en tout cas d'autres activités. C'est une histoire sociale, l'histoire de la consommation des drogues. Et on va le voir au cours de cette émission, pas seulement sociale, mais cet aspect récréatif, c'est aussi lié à l'évolution de la société.
Oui, une histoire socio-culturelle, je dirais, parce qu'avant l'usage récréatif, il y a l'usage peut-être plus expérimental, en fait, mené par des artistes, des écrivains, des psychiatres, enfin des aliénistes, comme on dit au début du XIXe siècle, qui sont intrigués, en fait, par les effets de ces produits et leur la possibilité qu'ils offrent d'explorer les mécanismes du cerveau et de la conscience.
Vincent Béroust.
Alors, si je vous comprends bien, les usages récréatifs de drogue sont apparus assez tard dans l'histoire de l'Occident.
Mais... Alors, dans l'histoire de l'Occident, mais dans le monde asiatique, au Moyen-Oriental ou maghrébin, on en trouve des traces.
Mais je voulais vous poser la question du cas particulier de l'alcool. Est-ce qu'on ne peut pas trouver des traces d'usage récréatif ou festif d'alcool antérieur à la date que vous avez évoquée?
Bien sûr, l'alcool, c'est l'objet d'un usage festif et récréatif, mais en fait, les deux, la catégorie drogue et la catégorie alcool, c'est quand même, ce sont deux catégories qui se sont précocement dissociées dans la culture occidentale. Et les produits qu'on va appeler des drogues, à l'origine, ils sont perçus comme des produits étrangers, exotiques, venus d'ailleurs, qui font l'objet de consommations beaucoup plus rares et beaucoup plus spécifiques et codifiées que l'alcool, qui est intégré dans les pratiques quotidiennes dès la plus haute antiquité.
Il y a toute la question de la consommation de l'eau, qui peut être facilement remplacée par du vin, du cidre, de la bière, sachant que ces boissons-là, au moins, on est sûr d'où elles viennent et probablement un peu plus saine, sachant aussi que l'alcool, c'est un médicament. Quand on lit les traités médicaux, et encore aujourd'hui,
bien sûr,
le trou normand, c'est extrêmement digestif comme histoire. C'est compliqué, hein, cette histoire des drogues, parce que Emmanuel Retailleau, vous avez aussi l'histoire des sciences qui arrivent dans cet univers, c'est-à-dire que de ces drogues naturelles, j'ai envie de dire, au cours du 19e siècle, on va voir apparaître, avec les avancées de la chimie, des drogues de synthèse, pourrait-on dire.
Oui, alors pas directement des drogues de synthèse dans un premier temps, mais on va apprendre à extraire les alcaloïdes des produits naturels, c'est-à-dire les principes actifs. Le premier, c'est la morphine, hein, au début du 19e siècle, en 1804-1805. Ensuite, ça va être donc la coca, la cocaïne, le principe actif, etc. Donc, ça permet d'avoir à disposition des produits qui sont beaucoup plus actifs, hein, beaucoup plus puissant et qu'on va effectivement utiliser en médecine.
Ouais, parce que cette médecine-là, dans le parcours de Roger Haim, on l'a bien dit, hein, nous sommes avec un scientifique, on croise beaucoup de ce que l'on a évoqué, c'est-à-dire les pratiques rituelles, et ça va être au Mexique. On a tout ce regard porté sur ce qu'on a appelé ensuite les stupéfiants.
Alors, effectivement, dans le cas des champignons hallucinogènes du Mexique, à l'origine, c'est un intérêt anthropologique, ethnologique, qui les a portés à la connaissance de la science occidentale. Et à partir du moment où les ethnologues et le mycologue, donc les ethnologues en l'occurrence les époux Wasson, un couple états-unien, et le mycologue dont j'ai étudié les archives, Roger Haim, ont fait des expériences sur eux-mêmes, ils ont la conviction que ça va être des médicaments.
Ouais, c'est ça, hein, c'est cette recherche médicale en disant qu'il existe des choses qui doivent pouvoir améliorer la santé des gens. Parce que c'est...
Mais avant même que ce soit une recherche médicale, c'est aussi une découverte scientifique d'une expérience psychique nouvelle. Alors, la médecine est une application, mais pour la science en général, c'est aussi une découverte sensationnelle, une nouvelle expérience psychique.
Oui, d'ailleurs, il y a eu des expérimentations identiques avec le haschich, hein, au début du 19e siècle, puis avec le LSD, hein, mis au point en 1943, donc qui fait l'objet d'expérimentations à partir des années 40-50. Donc c'est un phénomène récurrent, en fait, dans l'histoire des drogues.
Oui, parce que ces drogues, on les trouve beaucoup en médecine, bien sûr.
Mais avant même la médecine, il y a un intérêt scientifique qui peut se porter sur d'autres secteurs de la connaissance. Par exemple, la découverte de ces expériences psychédéliques a pu faire émettre l'hypothèse de l'origine du sentiment religieux à travers la découverte de ces expériences. Donc il y a bien sûr des questionnements thérapeutiques, mais aussi des questionnements plus anthropologiques, je dirais.
Ou la volonté aussi de comprendre les mécanismes de la folie, des dérèglements du cerveau. Le hashish fait l'objet d'expérimentations par des aliénistes, notamment le fameux Moreau de Tours, dans les années 1830-1840, qui, à travers ces produits, ont le sentiment qu'ils vont pouvoir mieux comprendre, en fait, les dérèglements psychiques.
Comprendre la folie, soigner les gens, et dans des moments très particuliers, c'est soigner les soldats.
En France, la morphine continuait à être utilisée pour soigner la douleur, surtout pendant la guerre de 70, lorsqu'on faisait des amputations, les chirurgiens l'utilisèrent, et c'est après la guerre qu'on s'aperçut qu'elle provoquait des toxicomanies, et elle devint petit à petit un médicament suspect. On voulut alors la remplacer, et on en fit un dérivé, l'héroïne, qui s'avéra extrêmement actif contre la douleur, et on s'aperçut que les malades préféraient l'héroïne à la morphine. On s'en réjouit beaucoup. On crut que l'héroïne remplacerait la morphine, heureusement, qu'elle ne posséderait pas ces effets secondaires défavorables que sont les toxicomanies potentielles. Et l'on dut déchanter, car l'on s'aperçut vers 1900 que l'héroïne était encore plus toxicomanogène que la morphine, que l'on s'y accoutumait encore davantage, et l'héroïne devint, au début de notre siècle, une des drogues les plus redoutables, qui rapidement d'ailleurs remplaça la cocaïne, déjà très à la mode à l'époque, et également la morphine, ainsi d'ailleurs que l'opium, toujours utilisé.
En 1984, sur FR3, le pavot ou la victoire sur la douleur, c'est ça, c'est lutter contre la douleur, c'est quelque chose d'absolument terrifiant, d'avoir mal, on le sait bien, et effacer la douleur, ben, quand on trouve un produit qui est présenté comme fabuleux, miraculeux, bien sûr, on se précipite. C'est le cas des guerres, celle de 1870 évoquée ici, la guerre de sécession aux États-Unis un peu avant.
Oui, tout à fait. Alors, ce sont les deux conflits dont on considère qu'ils ont fait passer l'usage des drogues antalgiques à grande échelle. Cela étant, les pouvoirs antalgiques de l'opium ont fait l'objet de multiples préparations au cours des siècles et étaient déjà utilisées dans l'Antiquité ou bien à l'époque moderne en Europe sous la forme de potions, le fameux laudanum de Sydenham. Voilà, donc c'est pas complètement nouveau, mais les produits dont on dispose à partir du 19e siècle, et notamment la morphine, puis l'héroïne dans les années 1890, sont des produits beaucoup plus puissants qu'on peut aussi injecter, puisqu'en parallèle on met au point la technique de l'injection, la seringue, ça permet effectivement une lutte contre la douleur beaucoup plus efficace, beaucoup plus systématique, d'autant plus que la modification des sensibilités individuelles appelle aussi à plus de confort et à supporter de moins en moins, en fait, les douleurs, et tout particulièrement celles liées à des maladies ou à des opérations.
Oui, on ne passe pas, en fait, du médicament au poison. C'est pas comme ça qu'on doit comprendre cette histoire-là. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs voies qui font réfléchir aux drogues, et on les a évoquées déjà. Et puis, les effets, en tout cas, les attentes se superposent. Le médicament est toujours présent, et puis après, pour d'autres usages, ça se construit dans le même temps.
Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, la dimension thérapeutique de ces produits n'a pas disparu. On utilise encore la morphine en médecine. Effectivement, les usages non médicaux, par prolongation et j'ai envie de dire dévoiement d'un traitement initial à base de morphine par exemple vont se développer, soit aussi par expérimentation volontaire parce que on commence à comprendre effectivement que ces produits ne sont pas seulement destinés à calmer les douleurs mais qu'ils ont des propriétés psychotropes, onirogènes donc qui modifient les perceptions et les états de conscience et donc ils vont être recherchés en tant que tels par des gens qui n'ont pas de maladies particulières, mais qui mesurent de plus en plus leurs effets.
Vincent Verroust, dans le cas de Roger Haim, on a quand même un personnage extraordinaire hein, par sa vie même, et c'est un grand scientifique, un membre de l'Académie des sciences, directeur du Muséum d'histoire naturelle à Paris, avec cette réflexion sur les champignons hallucinogènes. Donc, Comment en arrive-t-il là ? C'est parce qu'il est spécialiste des champignons à la base, c'est ça ?
Absolument. En fait, il s'est lié d'amitié avec les époux Watson, qui est un couple américano-russe, qui, au moment de leur mariage, de leur lune de miel, en fait, se sont rendus compte, en se promenant dans la nature, qu'ils avaient chacun une attitude tout à fait différente vis-à-vis des champignons en général. En fait, Valentina Watson, qui était d'origine russe, a cueilli des girolles pour les manger, et ça a horrifié son époux, Gordon Watson. Il disait, mais que fais-tu avec ça? C'est répugnant. Et à partir de ce choc, de comprendre qu'ils avaient chacun une attitude opposée vis-à-vis de l'objet champignon hérité de leur culture respective, ils ont décidé de fonder l'ethnomycologie, c'est-à-dire l'étude savante des rapports entre les peuples et les champignons. Et c'est à travers donc cette activité érudite d'étudier la place des champignons dans la culture, dans les proverbes, qu'ils se sont liés d'amitié avec un grand spécialiste des champignons qui était, et en plus ils étaient assez francophiles, hein, ces époux Watson, avec Roger Haim, mycologue, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle. Et au moment où les époux Watson redécouvrent l'usage de champignons psychotropes dans le Mexique central et méridional, ils envoient des échantillons à Paris pour identification. Et voilà comment la France, à travers cette figure de Roger Haim et de l'institution du Muséum National d'Histoire Naturelle, a été mêlée à la découverte des champignons hallucinogènes du Mexique.
Parce que là, nous parlons des champignons. Mais au moment d'évoquer la drogue, nous sommes ridicules parce que ce sont les drogues. Ça prend plein de formes. Hein. Depuis que nous discutons, nous en avons déjà cité énormément, que ce soit la morphine, que ce soit l'héroïne. Bon, les champignons aussi. On a même donné le café et l'alcool. Vous voyez, on en a ajouté plein. Non, mais c'est ça. Faire une histoire de la drogue, c'est complexe, c'est une histoire des drogues. Emmanuel Retailleau, quand vous écrivez sur les paradis perdus, ces drogues et ces usagers de drogue dans la France de l'entre-deux-guerres, quelle démarche adopter ? Comment essayer de saisir la drogue, les drogues ? Parce que on voit bien que ça infuse l'ensemble de la société, c'est un objet total.
Oui, alors ce qui m'a intéressé dans cette période, justement, c'est que c'est le début de la prohibition stricto sensu, hein, puisque avant 1916, il existe une loi sur les substances vénéneuses, qui est une loi régulant le commerce de la pharmacie, en fait, mais les produits restent relativement faciles à se procurer et circulent de manière assez abondante. Donc à partir de 1916, on décide de pénaliser un certain nombre de produits qu'on définit comme des stupéfiants. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'abord et avant tout une catégorie juridique. Et à ce moment-là, il y a quand même des débats pour savoir qu'est-ce qu'on va mettre dans la liste et qu'est-ce qu'on va écarter, notamment autour de l'éther, par exemple. Et puis dans les années 20, dans les années 30, il y a aussi le développement des anxiolytiques et des somnifères, les barbituriques, etc. Donc, qui pose aussi des problèmes d'addiction potentielle. Voilà. Mais en tout cas, à partir de 1916, donc, il y a une catégorie de produits qui s'appelle les stupéfiants, et les principaux d'entre eux, ce sont les opiacés, en fait, parce qu'ils provoquent des phénomènes d'accoutumance spécifiques qu'on ne retrouve pas de la même manière tout à fait, par exemple, avec la cocaïne, qui est un produit très dangereux, je ne vais pas, évidemment pas en faire l'apologie, mais qui ne provoque pas exactement les mêmes phénomènes de dépendance et d'accoutumance. Voilà. Et donc, ça devient des produits théoriquement interdits, mais qu'on peut néanmoins se procurer de diverses manières, notamment par la falsification d'ordonnances, tout simplement, ou par le recours à des médecins complaisants qui acceptent de faire des ordonnances, disons, un petit peu prolongées, au-delà des véritables besoins thérapeutiques. Et puis surtout, ça entraîne le développement d'un marché clandestin qui se professionnalise au cours des années 20 et des années 30, qui est pris en charge par des mafias, en fait, internationales, qui développent des réseaux à l'échelle, entre l'Extrême-Orient, l'Europe et les États-Unis. Et là, c'est désormais identifié comme à la fois un problème de société, mais aussi un problème de criminalité, en fait, et un problème même aussi économique, hein, puisqu'il y a des détournements à partir des circuits légaux, puisque ces drogues, elles sont aussi produites quand même par l'industrie pharmaceutique, qui en a toujours besoin.
Avec un contexte à préciser, nous sommes encore dans un monde marqué par des empires coloniaux. Donc on parle de l'Asie, on peut parler d'autres régions du monde, mais ces trafics-là doivent se comprendre dans un contexte différent de celui d'aujourd'hui.
Ah ben tout à fait, le développement des consommations de stupéfiants, notamment en Grande-Bretagne et en France, ont été étroitement liés à l'histoire coloniale. Pour la France, notamment avec donc la domination de l'Indochine et la mise en place en Indochine d'une régie de l'opium, drogue considérée considérée comme une habitude culturelle locale, en quelque sorte, et qui était, dont la vente était donc en ce sens acceptée ou acceptable pour les indigènes. Mais la vente d'opium était théoriquement interdite aux colons, aux Européens. Même si, de fait, les fuites étaient nombreuses, et donc, effectivement, l'opium a commencé à circuler en Indochine, puis en France, à partir donc de cette réalité coloniale.
Et la cocaïne ?
Alors, la cocaïne, c'est une histoire différente en ce sens que, d'une part, c'est un des rares produits dont la production, en fait, n'a pas pu être généralisée parce que la culture de la coca, en fait, dépend de conditions locales très 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 spécifiques, donc à partir des années 1850, on isole le principal alcaloïde de la coca, qui est la cocaïne, et on se rend compte que ça a des vertus stimulantes. Donc ça va être utilisé pour soigner les morphinomanes. Sigmund Freud notamment, quand il a découvert ce produit, a eu le sentiment qu'il avait affaire à un produit miracle qui a lui donné des formes de lucidité, une capacité à lutter contre la fatigue absolument irremplaçable, avant qu'on s'aperçoive effectivement que ça avait aussi des effets secondaires. Et donc ça commence à se diffuser comme produit récréatif dans les années 1910-1920. En provenance essentiellement d'Amérique du Sud.
Maurice Chevalier, le chanteur, s'en est procuré.
Étant très jeune, avec une des premières femmes que j'ai aimées, qui était à ce moment-là excessivement attrayante, mais qui était aussi assez perverse, puisque elle m'a appris à prendre de la cocaïne aussi. De la cocaïne, vous savez, dans le nez comme ça, et c'était tellement extraordinaire que je me disais, quoi, ça peut pas faire beaucoup de mal, ça. Et en même temps, on se sent tellement bien, on se sent tellement intelligent, on se sent tellement d'accord avec tout, n'est-ce pas? On se sent supérieur, presque. Ce qui fait que, après ça, je pouvais plus m'en passer, j'en prenais pas beaucoup, mais je ne pouvais plus m'en passer. Quand est arrivée la guerre, que j'étais blessé, prisonnier, là, j'ai pu trouver de cocaïne. Avant, je savais où j'allais en trouver à Paris. Alors, j'étais vraiment obligé de ne pas en prendre. D'ailleurs, je dois dire que ça ne me manquait pas terriblement. J'ai arrêté d'en prendre pendant tout le temps où je n'ai pas été infirmier. Et quand j'ai été infirmier, et qu'en effet, j'avais la clé, que là, j'aurais pu en prendre autant que je voulais, ben, j'étais guéri.
Eh oui, il était guéri. L'émission s'appelait Les Grandes Confidences. Nous étions en 1968 et Maurice Chevalier évoquait, ces prises de cocaïne. Maurice Chevalier avait 22 ans en 1900 et oui, pendant la Première Guerre mondiale, il était infirmier. Intéressant à voir aussi, comment une drogue se développe, elle est facile d'accès. Chaque drogue a une histoire.
Oui, alors vous avez vraiment retrouvé des archives sonores tout à fait extraordinaires et passionnantes. Mais ce témoignage est très intéressant parce qu'il montre comment on passe effectivement progressivement de ce que j'ai envie d'appeler le temps de l'innocence, où finalement on se rend pas encore vraiment compte des effets nocifs des produits, et puis on est jeune, et puis on sort, et puis on s'amuse, etc. Donc là, on est encore vraiment dans des logiques récréatives. Progressivement, la société et la justice et la police mettent des barrières. Et puis souvent, les individus eux-mêmes, à l'échelle d'une vie, se rendent compte des effets nocifs que ça peut avoir sur leur santé et sur leur psychisme.
Oui, parce qu'il y a vraiment ici le souci porté à des questions de santé publique, pour utiliser un mot sans doute anachronique. C'est cela, c'est le constat, au fil du temps qui passe, des effets de ces drogues. On est loin du club des hachichins du milieu du 19e siècle où il y avait un côté extrêmement récréatif et stimulant de la prise de drogue.
Mais oui, effectivement, parce que le club des hachichins, ça, qui est d'ailleurs une réalité un peu exagérée, mais ça ne concerne que vraiment un microcosme, une toute petite élite. Alors, à partir de la fin du 19e siècle, il y a des phénomènes qui relèvent de ce que les sociologues appellent la panique morale. Donc, effectivement, tout à coup, on est l'opinion l'opinion publique, les pouvoirs publics dénoncent et désignent un danger spécifique, et il y a la construction, notamment à travers les médias, d'une inquiétude sociale qui est... Alors, c'est souvent, ça donne souvent lieu à des phénomènes d'exagération, en fait, que ce soit en termes de chiffres, en termes de descriptions, etc. Mais ça part bien, malgré tout, de phénomènes qui sont réels. Il y a bien une croissance des consommations à la fin du 19e siècle. Il y a bien des formes de consommation pathologique qui se développent. Et même si, en regard notamment de l'alcool, les ordres de grandeur sont sans comparaison, il y a quand même l'idée qu'il faut mettre des digues pour empêcher ces produits de se développer de manière excessive.
Dans le même temps, c'est vrai qu'il y a une certaine lutte contre certains alcools, on pense à l'absinthe, enfin, toutes ces réflexions-là vont de pair hein, dans l'excès de la consommation
d'alcool. Alors, il n'y a pas que l'absinthe. La législation anti-alcoolique, elle se développe...
L'absinthe est interdite, c'est vrai.
L'absinthe est interdite, mais les barrières contre les consommations excessives d'alcool, elles, pour le coup, elles sont clairement mises en place. L'usage, bien sûr, ne peut pas être interdit, mais on essaye d'éviter, notamment à travers le contrôle des débits de boissons, les formes excessives de consommation d'alcool. Hein,
Vincent Verrouste.
Oui, en fait, je voulais rebondir. Vous savez, moi, je m'intéresse particulièrement aux substances psychédéliques, et vous avez parlé de santé publique, et ça va peut-être vous paraître insolite, mais il y a des études qui ont montré que dans la population des usagers de psychédéliques, ils semblent avoir une meilleure santé mentale et une meilleure santé physique. Comme si cette consommation... Alors, ils ont mesuré... Je cite deux études. Hein. La première a montré que sur une population de 130 000 personnes, parmi lesquelles il y avait un peu moins de 10 000 usagers de psychédéliques, il y avait moins de suicides, moins de consultations de professionnels de santé mentale, moins de dépression. Ça semblait avoir un effet protecteur, donc... Ça paraît tout à fait insolite, mais c'est une réalité. Une autre étude, encore plus récente, montrait que sur l'indice de masse corporelle, l'état de santé autodéclaré et la survenue de cancer ou de maladies cardiovasculaires sur les 12 derniers mois, les usagers de psychédéliques étaient en meilleure santé que la population générale. Tout ça rapporté à tout un tas d'autres facteurs. Donc c'est une question peut-être encore plus complexe et qui soulève, encore une fois, des questions de morale. Est-ce que...
Oui, de morale. Et puis, ça fait écho à cette longue histoire, parce que s'il était une évidence que les drogues tuent, elles seraient interdites immédiatement, dans ce sens où là, on a de longs discours médicaux sur quelle drogue utiliser. Vous avez cité le cas de Sigmund Freud, qui à un moment se dit, voilà, on a un produit miracle. Et puis, c'est le temps qui passe qui montre aussi les dangers de certaines consommations.
Mais oui, en fait, si on parle du danger des drogues, il faudrait pouvoir étudier les dangers de chaque substance psychoactive, et cela a été fait. Et que ce soit la dangerosité pour soi-même ou la dangerosité pour autrui, il semble que l'alcool soit quand même la substance psychotrope la plus problématique. Et pourtant, je pense qu'on pourrait très facilement s'en procurer en sortant d'ici.
Oui, mais cette histoire-là, c'est une histoire économique aussi, on le sait bien, hein, et qu'au cours du 19e, du 20e siècle, il n'était pas possible pour tous ces politiques de se passer du soutien de régions entières. Et puis après, il y a des effets culturels très forts, parce que c'est ça aussi l'histoire des drogues. C'est, je ne sais pas si le mot est juste, une histoire de mode. On voit que certaines drogues sont utilisées à certains moments, certaines drogues sont à la mode dans certains milieux. On a entendu la Maurice Chevalier, et donc c'est un milieu artistique à un moment qui consomme de la cocaïne. Vous constatez ça, Emmanuel Retailleau, il y a ces effets sociaux, cette envie d'essayer la nouvelle drogue.
Oui, alors il y a effectivement, j'utiliserai peut-être pas le terme de mode parce qu'il connote une dimension un peu futile qui me semble un peu inadaptée, disons, à ces produits, mais il y a des effets de cycle. Il y a des effets de cycle qui s'inscrivent dans l'histoire socio-culturelle plus large, mais qui sont aussi engendrés ou sous-tendus par les logiques proprement économiques et géopolitiques du trafic international. Et il y a clairement un cycle de l'opium à la fin du 19e siècle qui est lié aux relations, à l'intensification des relations avec les colonies et plus particulièrement l'Extrême-Orient. Il y a un cycle de la cocaïne qui s'enclenche dans les années 1910-1920, peut-être tout simplement parce que le produit est plus facile à se procurer en provenance d'Amérique du Sud, mais qui entre aussi en relation avec la culture de l'après-Première Guerre mondiale, ce besoin de défoulement, cette modification des modes noctambules, des modes vestimentaires, etc. Et puis il y a un cycle de l'héroïne qui s'enclenche déjà dans les années 30 et qui, pour le coup, est directement lié à l'organisation du trafic international et à la volonté des trafiquants de drogue de pousser en avant, de mettre en avant cette drogue qui est d'un meilleur rapport économique et financier, tout simplement.
Est-ce qu'il y a une chronologie aussi de la prise en compte de cette question des drogues? Alors, au niveau national, vous nous l'avez dit, nous parlons du cas français avec cette loi de 1845 très générale sur les produits...
Sur les substances vénéneuses.
Les substances vénéneuses, c'est très large. Cette loi de 1916 qui, là, alors, est aussi compliquée à étudier. Est-ce qu'on a une interdiction des drogues? On utilise beaucoup le mot de prohibition dans cette histoire-là, hein, comme on l'utilise souvent pour l'alcool aux États-Unis. Pourquoi prohibition?
Alors, il y a effectivement, il y a là encore des cycles de prise de conscience et de mouvements divers en faveur, sinon de la prohibition, du moins du contrôle des drogues, qui s'enclenchent en fait à la fin du 19e siècle, à partir non pas de la situation dans le monde occidental, mais de la Chine, où on considère que la consommation d'opium, pour le coup, est un véritable problème de santé publique. Alors, ça a été nuancé par les historiens qui ont montré que, malgré tout, à l'échelle de la population chinoise, ça ne représentait que des pourcentages relativement faibles. Mais en tout cas, c'est perçu comme tel. Ça rejoint ou ça recoupe des enjeux commerciaux, parce que les Occidentaux ont envie et besoin de pénétrer ce marché chinois, ce qui était déjà l'enjeu des fameuses guerres de l'opium. Les États-Unis vont jouer un rôle moteur dans ce domaine impulser une croisade contre les drogues, aussi parce qu'ils se disent victimes de consommation d'opium au sein des populations asiatiques qui s'installent aux États-Unis, notamment sur la côte ouest. Donc tout ça forme un ensemble assez complexe mais convergent. Au début du XXe siècle, conférence de Shanghai, conférence de La Haye, signature donc de protocole qui oblige les puissances signataires. Et donc, lancement, point de départ, des législations prohibitionnistes à partir de 1914 aux États-Unis, en 1916 en France, en 1920 en Grande-Bretagne. Et il n'y a pas de prohibition totale parce que ces produits restent indispensables en médecine. Il y a un contrôle beaucoup plus étroit de leur vente et de leur circulation.
Vincent Vérousse, quand on évoque tout ça, le trafic mondial de l'héroïne, l'argent, le banditisme aussi, et puis les ravages de certaines drogues. On est très loin de la démarche de Roger Haim, scientifique, qui lui étudie les champignons hallucinogènes et ses effets. C'est pour ça que c'est toujours très délicat d'évoquer comme ça, comme un tout, l'histoire des drogues, ces deux mondes.
Oui, absolument. Alors, surtout que dans la période que moi j'ai étudiée, donc entre 1955 et 1971, on ne peut pas vraiment dire que les champignons hallucinogènes provoquent des ravages, que ce soit dans les lieux où ils ont été découverts, à savoir le Mexique, ou dans le cadre d'expérimentations scientifiques occidentales. Et pourtant, ces champignons vont être interdits en même temps que le LSD en 1966, à la suite d'une panique morale. Là, je vous renvoie aux travaux de ma consoeur Zoé Dubus, qui a très bien expliqué ça, mais... Pourtant, au moment où en France on interdit le LSD et les champignons hallucinogènes, il n'y a absolument pas de problème de société lié à ça. Il n'y a quasiment pas de consommation en dehors des expérimentations médicales. Et à ce moment-là, il y a des échanges. Donc j'ai pu consulter dans les archives sur lesquelles j'ai travaillé, les correspondances du professeur OGM, un commissaire de police, commissaire Arnal, qui est, le fondateur de la police des mœurs et qui s'occupe de cela, quoi. Qui demande des photos des champignons hallucinogènes pour pouvoir maintenant que c'est interdit, savoir quels sont-ils. Et il y a un courrier de Rogem à la police qui dit, écoutez, voilà des photos, mais sachez qu'au Mexique, ça ne pose absolument aucun problème. Et s'il y a bien un problème, c'est le problème de la tequila. Et que ici aussi, certainement, le problème principal, c'est l'alcool. Et il décrit aussi qu'en Sibérie, la vodka a remplacé la Manitou mouche et c'est infiniment plus problématique que ces champignons.
Oui, parce que c'est une histoire des imaginaires aussi. On le voit bien, imaginaire diffusé dans la presse, hein, principalement Emmanuel Retailleau. On a vraiment ça avec les drogues, parce que ça devient... Alors, un genre littéraire, parce que dans le roman, il y a la scène du drogué. Et puis, ça devient aussi, dans la presse, dans les faits divers, quelque chose d'un peu incontournable. Hein. La drogue, elle est omniprésente. Mais ça crée cet imaginaire qui va nous permettre de comprendre aussi la prohibition.
Oui, alors cette panique morale, justement, elle s'adosse ou elle s'articule à des relais culturels. La presse, effectivement, aussi parce que dans les années 1890 se développe la presse de masse, hein, qui donc cherche à vendre et capitalise beaucoup sur des gros titres un peu sensationnalistes qui sont censés appâter le public. Donc il y a le crime, hein, mais il y a aussi la drogue et éventuellement le crime sous drogue ou le crime par la drogue, les deux peuvent s'articuler. Et donc on commence à la fin du 19e siècle à avoir ces reportages sensationnalistes, notamment sur les fumeries d'opium qui convoquent donc tout un imaginaire qui à la fois fascine et horrifie. Et puis, dans l'entre-deux-guerres, ça fait partie de la rubrique des faits divers, et notamment, justement, les faits divers relatifs aux grands trafiquants de drogue qui deviennent vraiment la figure de l'empoisonneur moderne, en fait.
Dans le cas des psychédéliques, leur interdiction et la panique morale qui est liée, me semble-t-il, intimement liée à la guerre du Vietnam et au mouvement anti-guerre qu'il y a pu avoir aux États-Unis dans les années 1960. En particulier dans la jeunesse hippie ou ce qu'on appelle plaisamment la contre-culture qui valorisait ce genre d'expérience à travers le LSD, le cannabis. Et cette panique morale est vraiment liée à une réaction, en fait, à cette espèce de vent de liberté, d'exploration et de refus de la guerre. Je pense que c'est ça qui, dans les années 1960, a inquiété les autorités françaises. On a ce bulletin du journal municipal de Paris où on a des échanges avec le préfet de police, Maurice Papon, qui dit « bon, on va s'inquiéter des beatniks ». Il y a une sorte de guerre culturelle aussi liée au contrôle des expériences que l'on peut avoir.
Oui, alors après, c'est vrai qu'il y a une nouvelle phase de la culture des drogues à partir des années 1960-1970, hein, qui est aussi relayée par la musique pop et rock, avec de nombreux artistes qui évoquent les drogues dans leurs chansons, qui sont eux-mêmes victimes des drogues. Alors même si ça reste un phénomène sans doute assez marginal, il y a l'idée que ces usages de drogues se développent, notamment au sein du mouvement hippie, et puis dans les années 70, auprès d'une jeunesse un peu perçue comme en rupture de banc, se revendiquant de la contre-culture, etc. Donc même si ça reste là encore quantitativement un peu dérisoire par rapport à l'alcoolisme, c'est indiscutablement un phénomène en progression et qui fait peur à cette génération des parents. Plus encore après mai 68, on a quand même un clivage générationnel très très fort, et l'idée de la part des générations, disons, des pères et des mères, qu'on a une jeunesse un peu en perdition, qui a perdu ses repères et qu'il faut quand même contrôler ou surveiller plus étroitement.
Oui, surtout que cette jeunesse, elle écoute Nico et le Velvet. $26 in my hand, up to Lexington, 125, feel sick and dirty, more dead than alive, I'm waiting for my man. Hey white boy, what you doing uptown? Boy, you chasing all women around. Oh, pardon me, sir, it's furthest from my mind. I'm just looking forward to different in mind.
your shoes and a big straw hat. He's never early, he's always late. First thing you learn is that you always gotta wait. I'm waiting for my man. All working out.
France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Waiting for My Man en 1967, on se demande ce que va apporter cet homme qui l'attend tellement, Emmanuel Retailleau. Dans ce vocabulaire utilisé autour des drogues, il y a le mot qui désigne le ou la le consommateur, la consommatrice, c'est toxicomane. Ici, la toxicité apparaît. Est-ce que l'on voit à quel moment l'idée que cette drogue peut être toxique ?
Oui, alors la construction justement de cette catégorie pathologique s'est effectuée lentement dans la deuxième moitié du 19e siècle et elle est forgée par la médecine, puis qui justement identifie à partir des années 1860-1870 le morphinomane, hein, c'est-à-dire l'individu dépendant de la morphine. Et puis à partir de là, on va forger la notion de cocaïnomane, d'hétéromane, d'héroïnomane. Et puis enfin, dans les années 1908-1909, si je ne m'abuse, on forge le terme générique de toxicomane, donc qui littéralement la manie des toxiques, hein, mais qui renvoie plus spécifiquement à la dépendance aux opiacés. En fait, et aux effets pathologiques spécifiques que ça produit. Donc là, effectivement, l'idée de toxicité, elle est enracinée, elle apparaît clairement.
Oui, et puis il ne faut pas avoir une lecture a posteriori des choses, c'est-à-dire que sur le moment même, pour le discours médical aussi, il y a une méconnaissance sur les effets de certains produits. Alors, on avance, on découvre, mais il n'y a pas cette vision sur le temps long dont nous bénéficions.
Bien sûr, mais justement, le regard médical va changer lentement, parce que au début, notamment la morphine, c'est quand même considéré comme un grand pas en avant dans les progrès thérapeutiques.
Et ça l'est.
C'est un médicament miracle, en fait. Voilà, donc on n'a jamais bénéficié d'un antalgique aussi puissant. Le changement de regard, il s'opère en quelques décennies pour donner lieu presque à l'excès inverse, c'est-à-dire qu'on va, de nombreux médecins vont un petit peu diaboliser ces produits avec l'idée que si on les prescrit de manière trop libérale, il va y avoir des mésusages systématiques et donc il faut restreindre très fortement leur usage. Mais ça va quand même donner lieu à des frictions entre la vision, disons, policière, judiciaire des pouvoirs publics d'un côté, la vision médicale de l'autre, qui ne veut pas non plus être trop entravée dans sa liberté de prescrire. Ça, c'est un des grands débats de l'entre-deux-guerres. Hein.
Ah, nous voyons bien ici tous les discours qui se croisent. Hein. À ce discours littéraire s'ajoute le discours médical et peu à peu un discours venu des autorités et de la police, ce discours de la prohibition avec des histoires étonnantes liées à ces drogues. Et là, on retrouve Roger Haim. Je le rappelle, hein, c'est vraiment une grande figure de la science, bien sûr, mais aussi de la résistance. Roger Haim, résistant, dénoncé et déporté, qui nous raconte une expérience vécue dans son camp.
En mars 1945, au camp de Mauthausen-Gusen, les rations de pain se faisaient de plus en plus petites et le pain était moisi. Et je m'apercevais que les camarades russes échangeaient très volontiers leur pain sain contre du pain moisi, à poids égal, et même en quantité moindre. Et un soir, à côté de moi, il y avait un russe qui était probablement un ancien commissaire du peuple, et je lui pose la question, je lui dis, mais enfin, pourquoi tes camarades mangent-ils du pain moisi ? Il me dit, écoute, je vais te le dire. Ils s'aperçoivent qu'en mangeant du pain moisi, ils ont moins d'anthrax, moins de furoncles et qu'ils résistent mieux à l'infection. Fais donc comme eux. C'était en mars 1945 et j'ai fait comme eux. Et je me suis aperçu qu'effectivement, en mangeant du pain moisi, nous n'avions pas autant d'infections, les anthrax ou les furoncles disparaissaient. J'ignorais complètement l'existence de la pénicilline. Et c'est 2 mois plus tard, à la Libération, quand on a prononcé le mot de pénicilline, que j'ai su ce que c'était. que j'ai fait ce rapprochement avec la découverte du russe. Évidemment, le Penicillium Dupin à Mauthausen n'était probablement pas le notatum, c'était une autre espèce, mais la plupart des Penicilliums renferment des antibiotiques, et celui du Kanguzon était certainement efficace.
On sait qu'il faut pas acheter le pain, hein. Sinon on fait du pain perdu, on fait du pudding, ce qu'on veut, mais alors maintenant le pain rassis, on sait que ça peut améliorer la santé, ce n'est pas rien. Vincent Verroust, comment ça se passe pour Roger Haim, parce qu'on a dit son intérêt pour les champignons, et donc pour les champignons hallucinogènes, mais ça s'arrête pas là, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va en faire maintenant?
Oui, exactement. En fait, il y a la certitude, dès les premières auto-expériences, que ça a un intérêt médical, donc Roger Haim va, dès qu'au Muséum National d'Histoire Naturelle réussit à mettre au point la culture semi-industrielle de ces espèces, chercher à identifier le principe actif. Bon, pour l'anecdote, le principe actif n'a pas été identifié au Muséum National d'Histoire Naturelle. Le chimiste à qui il avait confié la tâche a un peu négligé cette mission. Il préférait s'intéresser aux substances cardiotoniques de la digitale, cette magnifique fleur. Et les champignons du Mexique, ça l'intéressait pas trop. Il a fait tomber le flacon par terre. Et Roger Haim était furieux. Et il a adressé des champignons au laboratoire Sando, en Suisse, à Bâle, où une quinzaine d'années auparavant, on avait découvert le LSD, une autre substance hallucinogène qu'on a découverte en étudiant les alcaloïdes extraits d'un autre champignon parasite, l'ergot du seigle. Donc à partir du moment où la psilocybine, donc le principe actif de ces champignons, a été identifié, caractérisé, même synthétisé, en 1958, Roger Haim s'est arrangé pour que cette substance soit testée en psychiatrie clinique expérimentale à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, à partir de 1958. Mais pour Roger Haim, l'intérêt de ces substances ne s'arrête pas à cet intérêt médical, parce qu'il y a perçu aussi un intérêt d'exploration intellectuelle et philosophique.
Avec des cactus aussi dans cette histoire. Des sortes de cactus.
Alors oui, il y a des cactus à mescaline qui provoquent une expérience relativement analogue, c'est-à-dire le LSD, le champignon hallucinogène, les cactus à mescaline et aussi l'ayahuasca ont un mode d'action psychopharmacologique relativement similaire, de se fixer sur certains récepteurs très spécifiques de la sérotonine, donc les expériences sont relativement comparables.
Mais alors, le produit qui remporte dans cette compétition dans les années 1960, c'est le LSD. Donc là, le LSD, pareil, hein, c'est le champignon qui est à l'origine de cette histoire-là. Vous l'avez dit, hein, c'est l'ergot du siècle. Mais pourquoi le LSD connaît un tel succès?
Déjà, c'est un moment où on commence à comprendre, ou en tout cas à investiguer l'origine biochimique des maladies mentales. Et comme vous l'avez dit, Madame Retailleau, c'est les drogues, les psychotropes, disons, permettent de modéliser des états de folie temporaire. Et là, on a des hallucinogènes. Donc, dans un premier temps, on imagine que, grâce à ces substances, on peut modéliser ou faire vivre des épisodes d'hallucinations pathologiques, mais de façon expérimentale et d'une durée brève, ce qui peut être intéressant pour les étudier et pourquoi pas, comme une sorte de thérapie de choc. En faisant apparaître ces manifestations qui disparaissent, peut-être rétablir un psychisme normal. Mais les premières investigations thérapeutiques, en tout cas parmi les premières, se font au Canada avec un médecin britannique qui s'appelait professeur Osmond, donc là on est dans les années 1950, qui cherche à provoquer des déliriums tremens expérimentaux pour soigner des personnes alcooliques. En se disant, est-ce que ça vaut le coup d'attendre le stade du délirium tremens, où les gens peuvent avoir des hallucinations terrifiantes qui les poussent parfois à arrêter de boire? Donnons-leur des hallucinations, et peut-être que ça va les faire arrêter de boire. Et ils avaient des résultats suffisamment intéressants pour qu'ils continuent à explorer cette voie avec la mescaline et le LSD.
Et puis à la force, hein, de toute cette culture qui se développe au même moment, on a entendu Lou Reed tout à l'heure, c'est sûr qu'il y a une mise en avant de la consommation de drogue auprès d'une jeunesse, mais là aussi, c'est comment le message est-il perçu?
Auprès de la jeunesse, mais pas seulement. En fait, le LSD, quand il est commercialisé par Sandoz, dans la notice, donc on explique que ça peut servir à faire ces psychoses expérimentales, mais on invite aussi les médecins à essayer sur eux-mêmes. C'est-à-dire, ça a une valeur heuristique de faire l'expérience. C'est-à-dire, on invite les scientifiques à voir ce que ça fait et à tester sur tout un tas d'indications différentes. Et le LSD, tout comme la psilocybine, donc dans les années 1950 et la première moitié des années 1960, fait l'objet d'un espoir considérable dans le monde de la psychiatrie. Et pour les médecins chercheurs qui l'utilisent, ce sont des substances extrêmement intéressantes pour plein d'indications différentes en psychiatrie.
Emmanuel Retailleau, mais c'est vrai que les usages, c'est toujours la même chose et on le sent bien. Et ça vaut pour l'ensemble de tout ce qu'on dit, hein, et je rappelle que ce soit le café, l'alcool ou n'importe quoi que nous consommons, c'est cette idée de destination et puis souvent aussi de mesure.
Oui, et puis, alors, j'ai pas travaillé spécifiquement sur le LSD, donc M. Bérousse connaît le sujet bien mieux que moi, mais le LSD ne se prête pas à un usage chronique, alors que le cannabis ou les opiacés, oui. C'est difficile de devenir dépendant au LSD, ça n'existe finalement que sous forme expérimentale. En revanche, le danger potentiel de cannabis et des opiacés, c'est qu'on peut quitter l'usage ponctuel et récréatif pour basculer vers une consommation chronique qui, pour les opiacés, implique des doses croissantes. Et puis, comme ce sont des modificateurs de conscience, ça peut devenir une gêne sociale, en fait. Je veux dire, vous pouvez pas fonctionner socialement dans des états modifier de la conscience permanent. Voilà. Donc, c'est aussi tout l'enjeu du débat public autour des drogues, de leur dangerosité et de la nécessité de les endiguer d'une manière ou d'une autre. Hein.
Surtout quand vous croisez des beatniks.
Ouais. Tout d'abord, c'est passé l'été, il y avait des beatniks, des jeunes qui descendaient. Ils parlaient de hashish, de marijuana. Moi, je ne connaissais pas tout ça, je ne sais pas pourquoi. Ça m'était jamais venu à l'esprit, même de penser à me droguer. Et un jour, un jeune m'en a proposé, un garçon de mon âge à peu près. Tiens, écoute ça, c'est bien, tu verras, c'est pas dangereux, c'est pas toxique, tu peux. Si t'en prends qu'une, tu risques rien et tout. J'ai goûté, ça m'a plu, bien sûr. J'étais plus du tout moi, enfin, je voyais des images. J'avais le sentiment d'être quelqu'un d'autre, quoi, oui. D'être plus fort que ça. Enfin, le hashish, c'est pas du tout pareil que l'héroïne, de toute façon. L'héroïne, ça vous sort de la personnalité, alors. On se sent, là, avec l'héroïne, on se sent vraiment plus fort.
Mais est-ce que vous sentez faible, vous ?
Les gens qui vous...
Vous ?
Oui, je me sens assez faible, oui. Parce que j'ai aucun but.
Mais vous êtes
j'ai l'impression d'être inutile, quoi. Je sais pas. Une impression de servir à rien, voilà.
Nous étions en 1969, les ravages de la drogue sur les jeunes à Marseille. C'est un peu cette panique sociale que nous évoquions aussi. Là, ben voilà, quand on est parent, on entend quelque chose comme ça. La première peur, c'est que son fils soit abordé par des beatniks ou par un dealer. Enfin, c'est quelque chose qui devient récurrent. Et ça explique aussi pourquoi, dans les années 1970, la législation devient plus sévère sur ces drogues.
Oui, bah effectivement, à partir de 68-69, hein, il y a une nouvelle phase de ce cycle de panique morale qui s'enclenche et qui articule donc l'évolution des modes, l'influence de la culture pop-rock et puis les inquiétudes spécifiques sur ou autour de la jeunesse. Mais qui, avec mai 68, vont en quelque sorte se politiser et alerter ou inquiéter plus particulièrement les cercles conservateurs. Et puis, ça va se nouer autour d'un épisode spécifique qu'on appelle l'affaire de Bandol, en août 1969, donc le décès accidentel d'une jeune fille par overdose d'héroïne au sein d'une petite communauté de jeunes marginaux, etc. Donc un incident qui est abondamment exploité par la presse et qui va contribuer aussi à un désir de changer la législation qui a abouti à la loi de 1970, qui renforce donc les pénalités contre les trafiquants, mais qui crée aussi le délit d'usage et qui systématise la notion d'injonction thérapeutique qui était déjà apparue dans la loi de 1953.
Roger Haim était né en 1900, il meurt en 1979. Il voit toute cette histoire-là, c'est intéressant aussi, hein, parce que de sa position de scientifique, il a pu assister à l'évolution. Alors des drogues, bien sûr, mais aussi de la perception de ces drogues. Très loin des usages médicaux qu'il a pu lui impulser.
Oui, des usages médicaux ou des usages amérindiens au Mexique. Et c'est intéressant dans sa correspondance de voir au moment où il y a ce traitement médiatique complètement sensationnaliste, puis la prohibition, des échanges avec l'inventeur du LSD, Albert Hoffman, et on voit bien qu'ils regrettent en fait ce traitement sensationnaliste autour de découvertes qu'ils estiment incroyablement intéressantes, pour, encore une fois, pour l'exploration intellectuelle que permettent ces expériences.
Les archives montrent ça. C'est intéressant hein, de se dire que le scientifique lui-même, et on le sait bien, ne peut pas se départir du discours qui se diffuse dans la société. Il est conscient de la manière dont le LSD est traité. Et que c'est un frein peut-être à l'utilisation à usage thérapeutique.
Oui, oui, le LSD ou les champignons hallucinogènes, sans parler du fait que après qu'on a découvert donc ces usages dans un certain village du Mexique, il y a une sorte de ruée sur ce village, il y a une sorte de tourisme qui se développe. Et bien sûr, ce traitement sensationnaliste de ce champignon qui provoque la folie ou des visions. Bon, en tout cas, ce traitement déraisonnable du sujet les attriste.
Ouais, c'est ça, ça les attriste. Et puis il y a aussi la diffusion de manière de plus en plus simple de certaines drogues. Certaines disparaissent, d'autres se démocratisent. On voit aussi cela apparaître. Aujourd'hui, la consommation de drogues et les narcotrafics sont évidemment combattus. Mais il y a toujours ces différents discours qui se mêlent. Le discours médical est présent. Le narcotrafic, on voit bien que c'est un discours aussi pour lutter contre le banditisme, contre la drogue. Cette longue histoire de la drogue, en fait, c'est toujours, j'ai envie de dire, les mêmes tensions, plus ou moins vives à certains moments.
Oui, alors sauf que de nos jours, ça a quand même radicalement changé d'échelle. Le narcotrafic a une emprise sans commune mesure avec ce qui existait dans les années 30, par exemple, où on parlait déjà, effectivement, dans certains quartiers, du rôle néfaste des trafiquants de drogue, etc. Mais ça restait à toute petite échelle. Aujourd'hui, ça me semble incomparable, si vous voulez.
On est loin de la French Connection, quoi. C'est la French Connection.
Alors, la French Connection, néanmoins, elle se met bien en place dans les années 30, avec, je l'ai dit tout à l'heure, l'organisation d'un trafic à l'échelle internationale et la France qui joue un rôle de courroie de transmission entre le Moyen-Orient, l'Extrême-Orient et les États-Unis.
Et aujourd'hui, ce qu'il en est de cette histoire des drogues, est-ce que c'est un sujet d'étude qui interpelle? Parce que on voit bien la consommation de la drogue, et pour reprendre ce slogan des années 1980, la drogue c'est de la merde, eh bien, c'est un sujet qui est légitime comme sujet pour explorer l'ensemble de la société. J'ai envie de vous poser la question d'une autre manière. Est-ce que il y a des cycles sur l'histoire de la drogue? Est-ce qu'aujourd'hui on est dans un moment où c'est un sujet qui est porteur?
Alors curieusement, l'histoire des drogues est restée un sujet relativement marginal. Il y a évidemment quantité de sociologues ou de spécialistes de la délinquance ou du crime qui produisent des études, notamment sur la situation contemporaine. Mais l'histoire des drogues, bon, il y a évidemment un certain nombre de spécialistes et il y a eu des publications. Mais ça ne s'est pas développé autant qu'on aurait pu le penser ou l'espérer. Et je crois que c'est un sujet qui continue à faire un peu peur, en fait.
Ouais, ça fait un peu peur.
Alors même que, effectivement, comme vous l'avez bien dit, c'est un phénomène total, la drogue. Ça engage à peu près toutes les composantes de la vie sociale, économique, culturelle.
Et puis c'est un sujet qui est lourd aussi pour la chercheuse, le chercheur, parce que c'est l'objet de plein de moqueries, j'imagine. Enfin...
Oui, quand on travaille sur les champignons hallucinogènes, oui, on provoque souvent des sourires quand on explique ce qu'on fait, soit des sourires gênés, soit des sourires complices, mais c'est un sujet qui étonne, et en effet, oui.
Alors, merci à tous les deux, hein, Emmanuel Retailleau. Je renvoie à vos ouvrages, hein, Les drogues, une passion maudite, ou encore Les paradis perdus, ces drogues et ces usagers de drogue dans la France de l'entre-deux-guerres. C'est aux presses universitaires de Rennes. Et merci Vincent Verroust avec cette étude sur Roger Haim. À publier, parce que le personnage est extraordinaire. Pour terminer, par Jean-Claude Van Damme, un message de santé publique.
La coke, faut pas toucher, c'est de la merde.
Voilà.
J'ai essayé, moi, de la battre. On peut pas la battre. Alors, elle devient, quand on la connaît, elle devient un compagnon qu'on touche pas. Je suis allergique à la coke. C'est très simple. Et c'est pour ça que je sais parler maintenant, je suis en forme, j'ai peur de personne, je suis fort dans les yeux, parce que je fais pas de coke, tu vois. Bon, je parle un peu vite. C'est pas un problème, non, si tu es rapide. Je suis un mec qui est rapide, je suis speed, pourquoi? Je mange des légumes.
Et ben voilà, les légumes, l'addiction aux légumes, terrible. Cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Riyad Guerra avec aujourd'hui la technique d'Aliya. Émission préparée par Jeanne Delecroix, Jeanne Copper, Raphaël Laloum, Maël Vincent Randonnier, Tom Umdenstock et Maïwenn Guizhou. Le cours de l'histoire, trouvé à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.